Comment parler de la mort à nos enfants? Conférence à 19h45 à la salle communale de Recomvilliers.
Elle va être donnée par Alix Noble, qui est ex-enseignante, formatrice d'adultes et thanatologue. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites un métier au titre intrigant, thanatologue. Qu'est-ce que c'est?
Alors, un thanatologue ou une thanatologue, puisque c'est mon cas, s'occupe de tout ce qui a trait à la question de la mort. Thanatos, c'est le dieu grec de la mort, c'est de là que ça vient. Et puis Logos, la parole. Donc en gros, en tout cas ce que je fais moi, c'est de donner des cours aux enseignants, aux soignants, à qui il veut bien, des formations tout public aussi, pour traiter de cette question extrêmement délicate aujourd'hui, de la mort en général et de la mort en particulier là pour demain, celle qui touche nos enfants. Non, c'est quoi, on est aujourd'hui, c'est pour ce soir, qui touche nos enfants, puis la difficulté d'en parler à l'intérieur de la famille, voilà.
Et qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser au rapport entre les enfants et la mort?
Bon, je suis maman, c'est très très souvent le... Enfin, grand-maman maintenant, mais c'est très souvent le cas quand on rentre à la maison avec un petit bébé et qu'on réalise avec effarement qu'il se pourrait bien que... Enfin, on peut pas être absolument sûr qu'on va rester vivant pour s'occuper de notre enfant, que lui va réussir à rester vivant. Et il y a une espèce de panique qui s'installe chez les jeunes parents de se dire « Mais oh, et si l'un d'entre nous mourait ?» Alors ça, je l'ai eu comme pas mal d'autres parents. Puis ensuite, avec les enfants qui grandissaient, leurs questions qui se faisaient de plus en plus précises, je savais absolument pas comment faire. En fait, j'avais envie qu'ils arrêtent de me parler de ça. Non seulement ils n'arrêtaient pas, mais les questions devenaient de plus en plus subtiles avec l'âge. Et puis, je n'avais pas de réponse. Voilà. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je leur dise? Qu'est-ce qui est juste? Pourquoi est-ce que moi, ça me fait si peur? Ça, c'était la première chose. Puis ensuite, comme enseignante, on est beaucoup confrontés à la question de la mort, hein, avec nos élèves, des collègues. Puis alors là, c'est encore plus compliqué parce que je ne savais pas que dire. Je ne savais pas ce qu'on osait dire, surtout. Et je me sentais complètement dénuée d'outils, quoi. Ouais, je crois que c'est ça.
Parce que la mort, en parler en famille, c'est une chose, à l'école, c'est une chose différente, parce qu'il y a la notion de religion et de croyance qui s'invite à chaque fois qu'on parle de la mort.
Oui, il y a cette religion, cette question de plus en plus importante de la pluriculturalité, hein. On ne sait pas ce qu'on peut dire. Puis surtout, comme enseignant, on ne sait pas ce qui se dit à la maison, chez nos élèves. Donc on ne sait pas du tout quelle est la parole des parents là-dessus. Et puis surtout, comme enseignant, on se dit, mais enfin, j'ai pas à parler de ça à l'école. Puis en même temps, nos élèves sont touchés par ça. Si on a un élève qui tombe malade, qui a une leucémie, par exemple, ou si la mère d'un élève a un cancer, enfin, je prends des exemples comme ça, hein. Ça, c'est encore les maladies annoncées, la mort annoncée. C'est très lourd, hein. Comment on fait, comment on en parle aux autres élèves, s'il y a quelque chose à dire, c'est tellement... Le problème avec la mort, c'est qu'elle elle crée tellement d'impressions... Ouais, c'est comme un repas qu'on n'arrive pas à digérer, quoi. C'est lourd, il faut faire quelque chose, quoi. Mais quoi ?
Elle crée beaucoup d'impressions, vous dites, mais les impressions sont différentes chez les enfants que chez les adultes. Et on a même parfois l'impression que l'enfant est plus apte à recevoir tout ce qui se passe, tout ce qui se dit autour de la mort.
Oui, enfin, je ne sais pas s'il est plus apte, hein. Ça, c'est vraiment le... Mais en tout cas, il réagit autrement que les adultes. Et alors, c'est touchant de voir les adultes essayer le mieux possible de donner des réponses satisfaisantes. Par exemple, « N'aie pas peur, mon chéri, quand on est mort, c'est comme on dort. » Panique à bord, quoi. Alors, l'enfant va arrêter de dormir. Ou va être affolé à l'idée de dormir. Non, mais on connaît des enfants qui ont cessé de dormir, pas tellement par peur qu'eux meurent, mais par peur que leurs parents, s'ils ne sont pas surveillés, ne se réveillent pas.
C'est quoi la question la plus embarrassante qu'on vous ait posée, soit de vos enfants, soit de vos élèves?
Alors, j'ai de la peine à dire là maintenant, parce que c'est tôt, hein. Je me réveille pour vous. Donc, ce soir, je serai plus vigoureuse. Bon, il y a la question embarrassante de « on va où quand on est mort ?» Ça, c'est très gênant. Et une petite fille m'avait dit « bon, d'accord. Alors, quand je serai morte, mon âme sera au ciel. » Mon corps sera dans la terre, puis moi, je serai où ?
Ah, mais c'est joli,
effectivement.
Ça.
C'est joli, ça.
Ah, c'est
vraiment...
beau, quand même.
Ouais, non seulement c'est joli, mais c'est les questions qu'on a, nous. On est incapable de nous... Enfin, l'humain est incapable de s'imaginer mort. Non, moi, je dis, les enfants, on en a besoin. Moi, je les prêterais. Il faudrait en louer aux pompes funèbres. Parce qu'il faudrait que les pompes funèbres louent des enfants pour poser les bonnes questions et détendre un peu l'atmosphère, parce qu'ils ont les vraies questions.
Si on se pose ces questions, Alix Noble, c'est parce que la mort, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre de côté, qu'on a voulu ignorer. C'est pour ça que les adultes sont comme ça embarrassés aujourd'hui ?
Oui, je pense qu'il y a ça. La mort, c'est la plus grosse question qu'on a. Le problème aussi, c'est qu'on n'a pas de réponse. Donc là, il y a de l'embarras, ça c'est sûr. Puis je crois que les parents sont des très très bons parents aujourd'hui. Et que un de leurs désirs les plus forts, c'est que leurs enfants n'aient pas peur. Alors, le parent aura tendance à projeter sur son enfant la peur que lui, le parent, éprouve. Et il voudra le maintenir à l'écart de cette peur avec l'argument que plus l'enfant comprendra tard, mieux c'est pour lui, en gros. Laissons-lui son enfance tranquille, innocente, etc. Puis alors, du coup, le parent va essayer de le maintenir à distance. Bon, ça dépend des cultures, hein, mais il ne lui montrera pas les morts, ne le fera pas participer aux rites et aux cérémonies, s'évitant ainsi, croit-il, les questions délicates. Et le problème que ça pose, ça, c'est que l'enfant va se faire ses représentations dans son coin tout seul, et que les représentations qu'il va se faire, les explications qu'il va se donner, sont souvent beaucoup plus terrifiantes que ce que l'adulte pourrait lui dire. Dans ce sens-là, enfin, moi, ce que je dis beaucoup, c'est aux parents, c'est n'essayez pas tellement de répondre aux questions de votre enfant, parce que d'abord, il n'y a pas de réponse, hein, ce qui est un peu gros et massif. Dites-lui plutôt, comme c'est intéressant que tu poses la question. L'enfant qui se pose des questions sur la vie et sur la mort, il prouve qu'il est en train d'acquérir une certaine maturité et que c'est plutôt positif. Un enfant qui ne va pas bien, c'est un enfant qui ne se poserait pas de questions sur la mort.
Alors justement, vous dites les enfants, ils ne participent plus au rituel funéraire, on ne voit plus les morts. Il n'y a pas si longtemps que ça, les morts, ils étaient chez nous, hein, dans notre culture occidentale, ils étaient encore veillés à la maison, et puis la mort faisait vraiment partie de la vie pour les enfants comme pour les adultes, alors qu'aujourd'hui, on s'est éloigné de tout ça.
Oui, on s'est éloigné de tout ça pour une raison très simple. C'est qu'avant, quand on parle d'avant, c'était pas forcément mieux que maintenant. Hein. Moi, je ne suis pas passéiste dans ce sens-là. Mais avant, l'individu n'avait pas de valeur. Un enfant sentait quelque chose, on s'en fichait pas bien mal. Moi, on me disait, quand j'étais petite et que je disais « je veux », on me dit « c'est le roi qui dit « je veux ». Donc le « je », ça n'avait pas bonne presse. Hein. On faisait comme tout le monde et comme il faut, et c'est ça qui allait bien. Dans ce sens, il n'y avait pas d'intérêt particulier pour un individu et encore moins pour un enfant et pour l'enfant. Aujourd'hui, la différence, c'est que c'est l'individu qui a remplacé le groupe. Les normes, c'est les normes de l'individu qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que je me sente bien et que je sois heureux. En gros, c'est un peu massif, mais c'est un peu ça. Et puis alors surtout, l'enfant est devenu un partenaire choisi, extrêmement important. Et au fond, la réussite d'une vie de couple, c'est qu'on ait un ou deux enfants et qu'ils soient heureux, qu'on réussisse notre éducation. Et au fond, tout ce qui est négatif, tout ce qui nous laisse un peu inquiets, il ne faut pas que l'enfant puisse s'en souffrir. Et là, comme parent, on se trompe. Parce que ce dont l'enfant a le plus besoin, c'est de ne pas être seul. Il n'a pas peur de la mort, le petit enfant, il ne sait pas ce que c'est. En parenthèse non plus, hein, mais... Il n'a pas peur de la mort, il a peur d'être tout seul. Et moi, je compte plus les adultes que j'ai en suivi maintenant qui ont été laissés tout seuls à des enterrements, par exemple. Et ça, c'est un truc, l'enfant, ça passe pas. Pourquoi ? Mais c'était aussi son grand-papa, pourquoi il peut pas y aller ? Alors il va se mettre à imaginer de ces trucs, pourquoi on veut pas qu'il y aille ? Et puis il va se donner des espèces d'idées dans la tête que nous, on connaît pas, parce qu'il peut pas nous les dire, qui sont souvent beaucoup plus problématiques que la réalité, quoi.
Alors, comment parler de la mort à nos enfants ? C'est le titre de la conférence, Alix Noble, que vous donnez ce soir à 19h45 à la salle communale de Reconvilliers. Merci d'être venu nous en parler ce matin.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Au revoir.